France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Les eurosceptiques, comme Margaret Thatcher en son temps, ne se privaient pas et ne se privent toujours pas de rappeler que l'histoire de l'Europe dépasse de très loin le cadre de la coopération économique des pays de l'Europe occidentale dans la seconde moitié du XXe siècle, la CEE, devenue l'Union européenne. Nul n'est d'ailleurs besoin d'être eurosceptique pour partager ce constat. L'idée européenne s'est exprimée de façon très diverse au cours des siècles et cette idée européenne a laissé dans les imaginaires nationaux un certain nombre de traces. L'Europe se confondait dans sa première mouture avec la chrétienté, puis avec les échanges marchands, les échanges de savoir et d'idées, les échanges artistiques depuis la Renaissance. Tant et si bien qu'en République tchèque, en Irlande, en France et en Allemagne, la définition du sentiment européen peut se révéler très différente et révéler d'ailleurs quelques surprises. Voici Les Européens, vus par les Européens, dans Nuit Magnétique, une émission de juillet 1994.
Les Européens vus par les Européens. Nuit magnétique, bonsoir. L'Europe est une simple péninsule de l'Asie aux frontières arbitraires, mais ce débat est de toute manière balayé par la tempête des idées et des passions politiques qui soufflent depuis des siècles sur ce bout de continent mal défini. La première idée politique de l'Europe est fondée sur la chrétienté. On a rêvé, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, d'unifier une Europe dirigée par un pape ou un empereur. Durant le XVe siècle, l'émergence d'États modernes et structurés anéantit le fantasme de l'unité spirituelle sous la houlette d'un chef religieux. Jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, le concept de l'unité européenne va se dissoudre dans trois idées majeures. L'Europe de l'équilibre ou du concert, admettant l'indépendance des États. L'Europe unifiée par la conquête, c'est se contenter en vain Napoléon et Hitler. Et l'Europe volontairement unifiée. C'est cette dernière qui semble devoir l'emporter, et c'est elle que nous avons voulu sonder. Cependant, loin des volontés politiques, les futurs citoyens européens ont parfois bien du mal à accorder leur violon. Jana Novotsek, archiviste de la ville de Prague.
Chez nous, c'est assez, surtout maintenant, c'est assez mal vu d'être considéré comme un État de l'Europe de l'Est. Moi, personnellement, je suis pas hypersensible, parce que ce sont les choses qui évoluent tellement vite.
C'est une façon de se situer.
Oui, c'est une façon de se situer.
Une revendication.
Si on regarde la carte géographique, on voit de suite, on saisit de suite que la Bohème, c'est vraiment le cœur de l'Europe.
C'est rigolo, parce que les Français pensent être le cœur de l'Europe.
Ah bon ?
Il y a des cartes, où, j'ai vu les cartes pour les élections, où on voit, c'est la France qui est au centre, et puis tous les autres États européens. Enfin, il s'agit de la CE, mais quand même, c'est chacun truc la géographie, non ? Ou la fait servir à des besoins partisans.
Ah, si, non,
les Français se croient le centre du monde.
L'Europe, tu peux
ils se croient le centre de l'Europe et le centre du monde.
Considéré aussi comme quelques péninsules du continent asiatique, en fait. L'Europe, c'est un phénomène purement historique et pas du tout géographique.
C'est intéressant.
Ouais, pourquoi prendre, pourquoi prendre l'Australie pour un continent et pas pour une île, hein? Pourquoi la Groenland est une île et l'Australie est un continent?
Il y a une frontière naturelle
entre
l'ancien bloc soviétique et l'Europe de l'Ouest.
C'est-à-dire la Bohême a des frontières naturelles. C'est souvent la montagne, justement. La frontière entre la République tchèque et la Slovaquie n'est pas encore définie, n'est pas encore tracée, comme c'est une frontière créée récemment.
Ben alors, elle n'est pas encore tracée, mais elle est créée.
Elle est créée, oui, mais elle n'est pas tracée, justement. Il y a encore des territoires qui posent des problèmes, des hameaux qui sont déjà en Slovaquie, mais qui dépendent des communes moraves, ou bien des communes moraves qui ont des gares sur le territoire slovaque.
Et alors vous, au milieu de tout ça, vous êtes archiviste?
Moi, en tant qu'archiviste,
c'est un palais,
c'est l'un des plus grands palais baroques du vieux Prague, juste à côté de l'hôtel de ville.
Et qu'est-ce qu'on y archive?
D'ailleurs,
la mémoire.
La mémoire de la ville, tout ce qui concerne l'histoire de la ville de Prague. On est une ville européenne.
Ah. Et la mémoire de Prague appartient à l'Europe, alors?
Bon, j'espère bien. Si les Européens s'en préoccupent, eux aussi.
Et est-ce qu'ils s'en préoccupent?
Vu le nombre de touristes qui viennent à Prague, je dirais peut-être oui. C'était une ville multiculturelle, avec une forte minorité allemande et surtout juive, et comme les juifs étaient le plus souvent d'expression allemande, à Prague, surtout à Prague, ça crée une certaine ambiance qui était assez unique, même en Europe centrale, si on parlait Vienne, Berlin et Budapest, où il y avait aussi des minorités juives très très importantes, si on parlait de Varsovie... Où la minorité juive c'était la plus grande, après New York, c'était la plus grande ville juive du monde. Donc c'était New York, Varsovie, après c'était Budapest. Prague venait en cinquième rang après Vienne. Mais c'est quand même le milieu allemand juif de Prague qui a créé une très grande littérature.
Mais alors c'est une ville cosmopolite.
C'était une ville cosmopolite.
Mais pourquoi c'est plus?
Après 1945, les Allemands étaient obligés, presque tous les Allemands étaient obligés de quitter le pays. Les Juifs étaient...
Pourquoi?
Après le traité de Potsdam, les pays occupés par les Allemands tels que la Pologne, la Roumanie faisait un cas par la Pologne, la Tchécoslovaquie... Avaient le droit, disons, de se débarrasser de leur minorité allemande. Donc, ils
les envoyaient en Allemagne.
Ils les envoyaient en Allemagne, oui, carrément. Et le dernier recensement des Allemands a lieu en 68, et on en a compté qu'une centaine de milliers. Et dans les années 30, ils dépassaient 3 millions.
Mais alors, la ville a perdu son côté cosmopolite.
Certainement.
Et les touristes, ils ne ramènent pas ça. Hein, c'est un esprit qui est perdu.
Les touristes ne restent pas suffisamment longtemps pour redonner à la ville cosmopolite. Oui, c'est une ville cosmopolite. Dans les rues, on parle toutes les langues, si tu veux. Mais autrement... Je ne l'ai déjà pas connu, le Prague cosmopolite. Mais ma grand-mère, oui.
Tu parlais d'une forte fascination des anglo-saxons, des américains, vis-à-vis de Prague. C'est le Paris des années d'après la guerre de 14 pour
les... Oui, on estime que la population américaine dépasse, les chiffres sont très, très inexacts, entre 10 et 20 000 personnes.
Mais maintenant?
Maintenant, oui. Ils ont deux journaux américains. et une revue culturelle. Il y a un théâtre américain à Prague.
Une église.
J'habite une rue, j'en connais. J'habite une petite rue pas loin du centre. On a qui ne fait que 16 numéros en fait. Et il y a deux Américains. On a deux locataires américains dans la rue. D'ailleurs, d'abord ils venaient comme les profs d'anglais, mais enfin comme c'était pas toujours leur métier, après un certain moment ils arrêtaient. Maintenant ils travaillent pour un tas de sociétés américaines qui se sont installées, conseillers de commerce, conseillers. Que chaque Viennois de souche a une grand-mère tchèque et un grand-père morave. Donc, beaucoup d'affinités entre la cuisine autrichienne et la cuisine tchèque. D'ailleurs, la cuisine autrichienne était très influencée par la cuisine morave, tchèque, croate, serbe. Donc, les plus grands chefs de cuisine, les plus grandes cuisinières de Vienne à l'époque, c'est-à-dire dans les années 10-20 du XXe siècle, étaient tchèques. Ma grand-mère travaillait comme une cuisinière dans une très riche famille d'industriels juifs de Vienne. Les juifs de Vienne parlaient l'allemand ou le yiddish entre eux. Les enfants parlaient tous le français et l'anglais parce qu'il y avait toujours une gouvernante française ou anglaise. Les cuisinières étaient toujours de braves tchèques. Le cocher était un tchèque ou un morave, un slovaque ou un ruthène. Mmh. Ruthène. Donc ça, c'était une ville vraiment cosmopolite. Hein.
Quelles sont les langues qu'on apprend le plus à l'école ?
Maintenant ?
En Tchéquie ?
Maintenant, c'est certainement l'anglais et l'allemand.
L'anglais et l'allemand ?
Oui.
Bon.
Enfin, il y a maintenant des écoles de langues, même des lycées où tu peux apprendre le japonais, le grec, le latin. Enfin, c'est l'anglais qui s'est lancé le plus quand même.
C'est à cause de l'économie ?
Certainement. L'allemand, ça vient juste derrière parce qu'on est quand même beaucoup lié sur le point économique, surtout avec l'Allemagne fédérale. Le français a été battu par l'italien récemment, d'après ce que j'ai lu.
Est-ce que quand tu viens à Paris,
oui,
tu n'es pas au même endroit géographiquement, est-ce que tu penses différemment ?
Certainement, c'est intimement lié à la langue. Par exemple, en tchèque, on dit presque jamais « j'adore », hein. C'est trop fort, on le dit une fois, deux fois par an. Tandis qu'un français, il le sort tellement facilement. « le livaro, j'adore hein. ». Pour nous, c'est pas vraiment insupportable, mais...
Excessif.
Excessif. « tu seras invité ce soir, tout le monde sera ravi de te revoir. » Ravir, pareil, hein, ça... Je suis ravie une fois dans ma vie, c'est tout, hein.
L'Europe est également une héroïne mythologique au sujet de laquelle on se pose beaucoup de questions. Dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, Hérodote s'interroge. Le plus curieux, c'est que la Tyrienne Europe était asiatique de naissance et n'est jamais venue sur cette terre que les Grecs appellent maintenant Europe. Si l'on en croit Hérodote, on ne sait donc pas vraiment de quoi l'on parle. Paolo Fabri, directeur de l'Institut culturel italien. Paolo Fabre, le lieu commun, c'était le concept sur lequel nous tentions de réfléchir, le lieu commun, ce qui est un beau mot. Hein.
Oui, et les lieux communs, c'est l'Europe, d'une certaine façon, c'est là où nous sommes tous ensemble, mais en même temps, Et vous savez que les lieux communs ont pris une autre signification. C'est les choses dont ne sont pas dites, mais qui sont redites. Or, l'Europe est nouvelle, c'est un nouveau lieu commun, mais malheureusement, il est bâti sur une grande quantité de lieux communs. C'est une expérience que nous avons tous. On croit qu'on ne connaît pas les autres pays. On commence par dire, par exemple, j'aimerais bien connaître le pays en tel. Je prends un exemple, un pays où je n'ai jamais été, la Hongrie, où j'ai beaucoup envie d'aller. Mais les lieux communs, là, couvrent déjà le pays en entier. Dans le sens que nous croyons aller dans un vide culturel, mais en réalité, nous allons ailleurs. Mais l'ailleurs est entièrement connu déjà à l'avance par des stéréotypes. Si on nous demandait, par exemple, dès maintenant de décrire un Hongrois, je crois, ou son pays, je crois qu'on aurait tous des explications. Je crois qu'on arriverait même à dire combien il est haut, s'il est grand ou petit, s'il est brun ou pas brun, si son territoire est riche en arbres ou pas, s'il est plat ou ondulé, etc. D'une certaine façon, nous produisons toujours un savoir qui est très utile, parce que, vous savez, on ne peut pas aller vraiment dans l'altérité totale, on n'y va jamais d'ailleurs, on sait toujours. Mais en même temps, ce qui nous embarrasse beaucoup, c'est comment connaître vraiment. Alors donc, en même temps, les lieux communs sont des instruments indispensables pour connaître quelque chose, mais en même temps sont des obstacles pour comprendre quelque chose vraiment.
Est-ce qu'on peut voyager en Europe ?
Et écoutez, c'est assez bizarre, mais c'était un pays plein de frontières. Mais maintenant, étant donné qu'on voyage de plus en plus en avion, les frontières sont reculées à l'intérieur des pays eux-mêmes, c'est-à-dire dans les villes. Vous descendez à Prague, comme il m'est arrivé, et la frontière était dans Prague. C'est-à-dire qu'autrefois, voyager, c'était traverser des frontières. Il y avait des confins, comme on disait, des fronts. Dans lequel il fallait sortir son passeport, déclarer sa propre identité, la propre, et subir un examen, une vérification. On avait une sensation d'identité plus forte et d'identité de l'autre aussi plus forte. Aujourd'hui, on débarque, et on voit très bien partout, à cause du tourisme, débarquer des gens qui n'ont jamais vu vraiment une frontière. Alors, ça vous paraîtra un peu paradoxal ou pas, mais je crois que la seule façon de voyager aujourd'hui, c'est la cuisine. Et la cuisine des autres pays, qu'il y en a de bonnes ou de mauvaises, il y en a de très mauvaises en Europe, je pense quand même que c'est les lieux dans lesquels on est obligé à ingérer l'autre, à le mettre dans son propre corps. La cuisine fait encore de l'effet, je veux dire parfois dévastateur, parfois un bon effet. Et je trouve que voyager, d'une certaine façon, c'est manger, c'est le premier acte de voyage. Arriver dans un autre pays et manger.
Alors là, on retombe dans le lieu commun d'une certaine manière, puisque les Français, lorsqu'ils parlent de manière péjorative des Italiens, vont les appeler mangeurs de spaghettis. Les Anglais parlent des Français comme des frog eaters. Alors donc, on est en plein dans la cuisine, là.
Oui. Et vous voyez, c'est, bien sûr. Mais ce n'est pas intéressant que les gens se classent par la culture plutôt que par les sangs. Et je trouve plus dangereux quand les gens se classent par différence de couleur, comme ça. Que ça se classe sur la cuisine, ça ne me paraît pas une mauvaise idée.
Mais est-ce que les Italiens ne sont pas en train de se classer par niveau de vie ou par réalisation économique ? Qu'est-ce qui se passe ? On va pouvoir encore voyager en Italie, où il va y avoir un sud, un nord, et puis les villes du sud, dont on aura du mal à passer de l'une à l'autre ?
Non, je ne le pense pas. Finalement, le problème fondamental de l'Italie, c'est qu'elle a choisi l'Europe et à jamais. Le problème, c'est si l'Italie qui a choisi l'Europe, c'est l'Italie nationale, n'est-ce pas, ou une Italie comme fédération de villes, plus que des régions. Or, j'ai l'impression que c'est un peu le cas, mais ça a été toujours le cas, finalement. N'oublions pas que les Français, par exemple, ont parfois une très mauvaise opinion de l'État italien, mais une très bonne opinion de toutes les villes qui le composent. Donc, je pense que ça facilitera, en revanche, les voyages aux Italiens, comme d'ailleurs c'est le cas. Les Italiens ont tendance à créer des relations régionales et des villes à villes, plutôt que des nations à nations, ce qui leur facilite la vie parfois par rapport aux Français. Mais les Italiens ne sont pas les seuls. Je sais que, par exemple, les amis catalans ont tendance plutôt à créer des relations avec des régions de l'Europe et non pas des institutions européennes. Et ça, c'est une chose sur laquelle j'aimerais beaucoup insister. C'est-à-dire, il y a aujourd'hui, pour un Italien, évidemment, beaucoup plus fort, mais il y en a à cause de notre histoire, de notre expérience, de notre histoire politique et nationale récente, à peine un siècle, une tendance naturelle à approcher l'Europe dans deux directions. Ou bien comme supernation, c'est-à-dire comme agglomération d'États, d'un côté, ou de l'autre côté comme infranation, c'est-à-dire comme agglomération de villes et de régions. Et je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est comme ça que l'Europe va se produire. Comme Européen, je vois plutôt l'Europe comme une fédération de villes et de régions qui va reprendre justement des relations qu'on avait perdues. Je pense à la Hongrie. Je me rappelle qu'un ami à moi, un vieil ami d'ailleurs, un ami vieux en plus, un jour est parti de Ferrare à cheval et ils ont fait un grand voyage pour aller jusqu'à Cluj avant et à Budapest après, et pour renouveler les anciennes relations très intenses que pendant la Renaissance on avait et entre les duchés de Ferrare et le royaume de Hongrie. Vous voyez ? Alors, bien sûr, c'est un voyage pittoresque, d'une certaine façon. Mais je crois que ça prendra un rôle important dans les relations futures avec l'Europe.
Alors, est-ce qu'il faut croire aux villes libres ? Aux villes libres comme il y a pu en avoir en Allemagne ou en Italie ?
J'ai l'impression, et ça je crois que tout sociologue pourrait le répéter à voix plus haute peut-être, et moins de sourire, qu'aujourd'hui, le problème fondamental est la ville. Et la relation importante entre les villes petites comme ça et les grandes villes, les grandes métropoles, comme Paris, par exemple, en Europe, n'est-ce pas ? Et je crois que l'Europe future sera une Europe où la fédération de villes vont redevenir un très grand problème. Ces fédérations seront bien sûr facilitées aujourd'hui par le fait que les villes sont aussi les lieux centrales de systèmes de communication. En même temps, il est vrai que ces villes deviennent de moins en moins nationales. Moi, je dis souvent que Paris est de moins en moins la capitale de la France, mais, par exemple, à certains niveaux, au niveau culturel, la capitale culturelle de l'Europe. Mais au niveau de capitale culturelle de l'Europe, elle n'est pas si française que ça. Elle est Paris, une sorte de grande ville métropole dont l'influence dépasse franchement les frontières françaises. Et même les caractéristiques, de plus en plus, sont des caractéristiques européennes. En tout cas, je regarde Paris avec très grand plaisir dans cette direction-là.
Mais permettez-moi de vous apporter la contradiction avec l'idée suivante. Paris, capitale culturelle de l'Europe, oui, mais une culture figée, une culture muséifiée, une culture sublimée, une culture montrée, exhibée dans des manifestations qui rassemblent de plus en plus de spectateurs. On vient du monde entier pour voir des rétrospectives. Alors est-ce vraiment ça l'Europe ?
Donc voilà, j'aurais pu ajouter effectivement que Paris est de plus en plus une capitale, c'est vrai, une capitale vitrine de la culture plus qu'une capitale productrice de la culture. Ceci dit, il ne faut pas généraliser tout de suite. Je dirais que on peut imaginer assez facilement que Paris a eu des moments d'intensité culturelle et productive. L'après-guerre a été, le deuxième après-guerre a été une grande intensité. Sûrement les années 60 ont été un moment où cette ville a produit, comme la France entière d'ailleurs, une culture nouvelle des grands renouveaux. On peut imaginer qu'aujourd'hui, un forcing indubitable vers une vitrine européenne peut avoir changé les termes. Mais il ne faut pas oublier non plus que j'ai très grande confiance dans l'idée que les traductions culturelles que Paris nous permettra sont susceptibles, je ne dis pas que c'est arrivé, susceptibles de créations culturelles intéressantes. C'est-à-dire les possibilités par tous ces gens de cultures différentes de venir dans une ville où effectivement on offre plus de la culture déjà faite que de la culture un bouillonnement, ça je suis d'accord avec vous, permettent des traductions et des transformations qui, à mon avis, sont imprévisibles. J'ai une définition de traduction, que je pense qu'elle soit valable pour l'Europe éminemment, pour l'Europe et surtout pour l'Europe latine, c'est-à-dire l'idée que la traduction n'est bonne que du moment que la langue d'arrivée et la langue de départ s'enrichissent toutes les deux en même temps. Une mauvaise traduction serait celle, comme vous dites, dans laquelle une culture déjà faite se transmet un peu comme une marchandise dans une autre culture. Je pense que si jamais il y a des événements dans lesquels l'acte de traduction culturelle, je vais dire, non pas simplement linguistique, l'acte de traduction enrichit la culture d'arrivée et aussi la culture de départ. Alors, là, on a de la valeur culturelle. J'espère de tout mon cœur que Paris arrive dans ce moment vitrine qui est le sien maintenant à acquérir de la culture dans les opérations de traduction. Ça, c'est un problème. On pourrait discuter. Moi, je pense qu'un exemple me paraît bon, c'est l'architecture. Il est vrai qu'après, disons, à partir des années 80, la France a énormément fait pour sa propre construction, très souvent, d'œuvres culturelles. Vous n'ignorez pas non plus qu'elle a demandé beaucoup aux Italiens, qui avaient une culture à l'époque architecturale supérieure à la France. Et les Français l'ont fait, je trouve, avec une franchise et une disponibilité vraiment de grande envergure européenne. Mais les résultats actuels, c'est que tandis qu'en Italie, je pourrais fortement critiquer la crise de la culture architecturale, la France aujourd'hui est devenue un lieu d'une élaboration d'une culture architecturale vraie. Je pense que voilà un bon exemple d'une traduction qui s'est faite et qui a enrichi en tout cas la France.
Mais certainement pas en ce qui concerne l'opéra et pas plus le Louvre, où on a été demandé à des gens qui n'étaient pas des Européens de produire ces lieux culturels.
Là, vous me faites prendre une position très ferme. Eh bien, oui, l'opéra de Bastille, c'est peu de la définir un désastre.
Oui.
Oui. Quant au Louvre, là, il y a un problème. J'aimerais bien faire une différence entre je dirais la nécessité du Louvre pour la France et son impossibilité en Italie. Et ailleurs qu'en Italie, par ailleurs. En Allemagne aussi, mais en Espagne aussi. Quoiqu'en Espagne, on pourrait peut-être discuter, j'ai l'impression, quand je réfléchis à la situation actuelle du Louvre et à la condition d'énormes supermarchés, de ces choses-là, on en trouve dans des grandes villes américaines, c'est vrai, où les supermarchés sont en même temps des lieux de consommation, mais aussi des lieux de culture. Je crois que quand même là, l'État français n'a fait que poursuivre, a-t-il eu tort ou pas, un effort qui était déjà celui de la monarchie française. Le Louvre était déjà les lieux des collections royales. Il a eu une ambition européenne à l'époque napoléonienne et de la Révolution. J'ai l'impression que l'acte, ce qu'on a fait maintenant, ce n'est fait que d'une certaine façon de poursuivre un effort tout à fait cohérent. Alors, valait-il la peine? Est-ce qu'il fallait le faire? Est-ce que c'est opportun de le faire? Ça, l'on peut discuter.
Alors, cohérent, certes, mais dont l'ampleur peut se révéler dévastatrice.
Tout à fait. Ça, c'est le cas qui a été souligné à une part Baudrillard aussi, dans un petit livre, à mon avis, extraordinaire, qui s'appelait « L'effet Boubourg », presque prophétique, quand Baudrillard prévoyait l'écroulement physique de lieux sous l'importance de la présence étrangère. Mais n'oubliez pas que la plupart des Italiens, la plupart des jeunes qui visitent Beaubourg, c'est des Italiens, plus que les 50% de jeunes. Vous voyez, donc, j'ai l'impression que ces gens-là peuvent rapporter quelque chose.
Excusez-moi de vous couper la parole, mais n'est-ce pas tout à fait logique dans la mesure où, si on prend l'exemple de l'Italie, la culture est établie sur le pays à travers un véritable maillage où chaque ville possède un musée fantastique de richesse et sublime de beauté. Et là, ça permet d'avoir une espèce d'étendue culturelle sur l'ensemble du pays où finalement, il n'y aura pas une ville qui va concentrer tout le pouvoir culturel ou tout le passé glorieux de l'Italie, y compris de l'Italie antique, de celle de la Renaissance, jusqu'à nos jours. Et ça convoque donc le public italien à Beaubourg, où il est confronté à ce qu'eux n'ont jamais vécu, finalement.
Absolument. C'est ça, la différence. Pour moi, et étant donné que je suis persuadé, peut-être à cause de mon âge, que toute la beauté a d'avoir quelques vices cachés, au contraire, d'ailleurs c'est une phrase de Shakespeare qui attribuait ça comme mérite aux femmes et aux roses, j'ai l'impression que chaque vertu a les vices, a les défauts, si vous préférez, les vices n'est pas bon, disons que chaque qualité a ses défauts. Et l'Italie, en revanche, manque actuellement à avoir une politique sérieuse de conservation de son patrimoine. Vous savez que nous avons un ministère du patrimoine qui n'a pas eu que des initiatives glorieuses, et les difficultés, le vol surtout de ce patrimoine si dispersé, l'investissement d'argent qui s'est fait toujours ailleurs et en dernière partie au patrimoine culturel, c'est quand même un défaut de l'Italie. Peut-être un État un peu plus fort réussirait à une conservation de notre patrimoine supérieur. Alors c'est ça que les Italiens viennent voir en France, quelque chose, une image de notre choix qui peut être fait.
Alors que le Belge Paul-Henri Spaak, que l'Italien Alcide de Gasperi, que les Français Jean Monnet et Robert Schuman réfléchissent ensemble aux futures institutions d'une Europe unifiée par la volonté politique, le 8 novembre 1948, au café de l'hôtel Notre-Dame, quai Saint-Michel à Paris, le poète belge Christian Dautremont réunit quelques amis. Ils veulent fonder un mouvement artistique résolument européen qui se démarquerait de l'hégémonie parisienne en la matière. Il y a là les peintres hollandais Carré Lapelle et Constant, le danois Asger Jorn et le liégeois Cornelis Beverlo, dit Corneille.
Ouais, vous savez, je ne suis pas, un homme tellement de la parole, je suis plutôt un homme du pinceau. Un peintre s'exprime quand même beaucoup moins facilement avec les mots qu'avec la couleur ou la toile et les pinceaux. Bon, mais je vais essayer. C'était un courant qui venait quand même du Nord. Il ne faut pas oublier que Cobra, c'est la contraction de trois villes. Le début c'est Copenhague, Bruxelles, Amsterdam. Ce qui fait que Cobra, c'est devenu... Le sigle, quoi, sous lequel nous nous sommes montrés, affirmés.
Cobra, Copenhague, Bruxelles, Amsterdam, contre Paris?
Contre Paris, c'est-à-dire une certaine forme de parisianisme, une peinture qui était assez... Quand on a débuté, nous, la peinture qui se pratiquait à Paris, à part les grands aînés, évidemment... qui était tout à fait formidable. Je parle des aînés de Picasso, Braque, Chagall, Fernand Léger et d'autres.
Ernst et Tanguy.
C'est des grands aînés. Mais la peinture qui se pratiquait à Paris en 48, quand nous avons démarré le mouvement Cobra, elle était quand même assez ennuyeuse et il y avait quand même c'était une peinture un peu abstraite comme ça qui jouait des formes sur une toile et c'était pas très vigoureux et pas très beau. Je pense que la nouveauté que nous apportions incontestablement, nous avons balayé toute cette abstraction qui ne nous plaisait guère, qui était quand même très académique.
Et les Parisiens en 1948 étaient-ils prisonniers ou encore sautés dans une pensée politique qui était peut-être stérile?
Oui, il y avait un ronron comme ça de tous les jours. Et nous sommes battus sur plusieurs fronts. Il y avait aussi le constructivisme qui était à l'honneur à l'époque. Et je crois que ce que nous avons apporté, nous, c'est une nouvelle fraîcheur. Notre peinture est une peinture spontanée, une peinture qui naît, qui est fervente, qui était folle, comparée à toutes ces sages productions de l'époque.
Et qu'en était-il alors, peut-être on peut les qualifier de théoriciens, des théoriciens du groupe, je pense à Christian Dautremont pour Cobra, et peut-être à celui qui vous a posé bien des problèmes, c'est André Breton pour les surréalistes.
Nous nous sommes quand même aussi distanciés des surréalistes. Évidemment, il y avait là aussi quelques très fortes personnalités. Là, on peut parler d'une... C'était assez doctrinaire de la part d'André Breton. Et les peintres qu'il défendait, à part quelques-uns, évidemment, comme Miro et Max Ernst, entre autres, la plupart n'étaient quand même, à nos yeux, n'étaient pas tellement valables. Nous étions... on trouvait ça plutôt... c'était une peinture pas très fraîche et un peu morbide, peut-être intéressante d'un point de vue psychanalytique, mais en tant qu'œuvre picturale, forte et vraie, il y avait quand même une peinture névrotique qui se pratiquait au sein du mouvement surréaliste. Et je pense que les plus grandes forces dans le surréalisme se résidaient quand même plutôt dans la littérature, où des grands poètes émergeaient, qui étaient très 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 intéressants, et qui le restent d'ailleurs, et d'autres mots qui connaissaient personnellement très bien Breton, s'est quand même distancé de lui et apporté quelque chose de neuf. De plus naïf aussi, de plus naïf, il faut dire. Justement, nous nous inspirions beaucoup des dessins d'enfants, de créations spontanées, la peinture des fous, etc., etc. C'est-à-dire une peinture sans frein et qui naissait au fur et à mesure du fer, c'est-à-dire une peinture qui naissait de la matière au fur et à mesure qu'on la faisait, au fil du pinceau, pratiquement.
Alors c'est donc la grande idée de la spontanéité.
Voilà, justement. Contre cet intellectualisme forcené qui était quand même sclérosant, qui n'ouvrait pas de perspective je crois que nous avons apporté du sang neuf, quoi, dans tout ça. Et c'est bien pour ça que maintenant il y a déjà pas mal de temps que ce mouvement est né et continue quand même d'exister, c'est-à-dire que nous sommes rentrés dans les dictionnaires, hélas, mais c'est comme ça. On a fait école malgré nous, parce que nous étions contre les écoles. D'ailleurs, d'autres mondes disaient toujours Cobra existe, mais il n'y a pas, comme tous les arts finissent en isme, avec Cobra ça ne risque pas, il n'y aura pas cobrisme.
Du tunnel sous la Manche, c'était assez drôle parce que les journaux britanniques soulignaient qu'en fait pour eux c'était pas très nouveau d'avoir pied sur Calais, puisque Calais a été britannique pendant 2 siècles, donc pour eux ils étaient en territoire conquis. Mais il y en a d'autres par contre qui disent effectivement que c'est la fin de la Grande-Bretagne, île souveraine, et que ça va leur amener la peste et différents mots européens.
La peste du cochon.
Oui, c'est cochon d'Allemandia généralement. Bon, il y en a d'autres aussi, d'autres journalistes qui disent que cette europhobie ou même que cette francophobie britannique est en fait révélateur du malaise identitaire de la Grande-Bretagne, qui est complètement perdue, qui a plus son empire, qui sait plus très bien où en est sa relation spéciale avec les États-Unis, qui se sent à part, mise à l'écart par le couple franco-allemand de la construction européenne, qui voit bien que sa vision de l'Europe à plusieurs vitesses est en train de se faire, sans pour autant que ce soit une Europe à plusieurs vitesses libérale telle qu'elle le voulait. Elle est complètement perdue, la Grande-Bretagne, par rapport à l'Europe.
Et alors, comment les Allemands voient tout ça?
Ben, pour les Allemands, l'Europe n'est plus la grande affaire. Pour les Allemands, la grande affaire maintenant, c'est la réunification et puis la grande Europe, c'est-à-dire l'Europe géographique qui inclut l'Europe de l'Est.
Comment les Allemands perçoivent-ils les peuples latins?
Les Allemands font du commerce. C'est ça qui est très important pour eux. Et ils savent très bien donc que la France est le premier partenaire. Et que la France soit un peuple latin, c'est intéressant pour les Allemands sur un autre plan, parce que les Allemands, comme chacun sait, font aussi beaucoup de tourisme, et quand ils font du tourisme, ils adorent évidemment les pays latins. Ils vont en France, ils vont en Italie, ils vont en Espagne. Mais ce sont deux choses qu'il faut distinguer. Les Allemands aiment bien les Français. Ça, tous les sondages le confirment. Ils aiment bien la France, ils aiment bien la culture française, ils aiment bien venir en France. Et ils savent aussi que la France est un grand pays économique, une grande puissance économique et importante pour l'Allemagne.
Et avec la réunification, est-ce que les Allemands ont acquis une nouvelle conscience de leur destin national? C'est, pensent-ils ou ont-ils conscience d'être une puissance européenne ou une puissance qui appartient au continent européen, puisque là on parle plus de la Grande-Bretagne, qui aurait éventuellement un rôle à jouer qui les rapproche de ce qu'a pu être l'Allemagne en 1870 après l'unification ou juste avant la Première Guerre mondiale?
Justement, il y a effectivement un débat de ce genre en Allemagne. Il y a pour la première fois depuis... je dirais depuis la guerre, depuis 45, il y a des intellectuels qui élèvent la voix pour dire que il faut revenir vers le concept de la nation allemande, il faut se replonger dans ça, il faut trouver une nouvelle identité nationale qui commence à dire il faut ouvrir une nouvelle page de notre histoire, l'ancienne république fédérale s'est terminée. Et qui commence à remettre en question ce qu'on appelle l'ancrage à l'Occident ou l'ancrage à l'Ouest de l'Allemagne, qui a été mise en place par Adenauer. En fait, cette question d'une nouvelle identité allemande, ça, pour moi, c'est plutôt un révélateur d'un profond malaise allemand, justement malaise identitaire, mais qui n'est pas du tout dirigé contre quelqu'un à l'extérieur. Il faut quand même rappeler que c'est une nation qui n'a pratiquement jamais eu son unité dans la paix, sauf à l'époque bismarckienne, et encore c'était une unification assez violente, voulue par la Prusse contre la plupart des autres régions allemandes. C'est une très jeune nation finalement, et tous ces débats sont à mon avis nécessaires. Mais je pense que personne, et surtout pas les Français, doivent craindre quoi que ce soit de l'Allemagne, même puissante et même agrandie. C'est vraiment un débat interne qui relève de ce malaise ou de ce passé qui n'est pas encore passé, qui est encore très présent. Tous ces chapitres, le nazisme, la division de l'Allemagne, c'est encore très présent.
Si on déplace le problème de l'Europe des nations vers l'Europe des régions ou des villes, puisque en Allemagne, par exemple, il y a quand même une grande tradition de la ville libre, est-ce qu'on pourrait voir ou apercevoir un certain nombre de solutions, et si oui, lesquelles ?
C'est vrai que l'Allemagne a une tradition, justement, puisqu'elle n'a jamais vraiment été une nation centralisée. Elle a au contraire une très forte tradition fédérale et régionale, et ça continue comme ça. Et moi, je trouve d'ailleurs que c'est très bien comme ça. Et on s'aperçoit que, par exemple, les régions limitrophes de la France, c'est-à-dire le Bade-Wurtemberg et l'Alsace, et d'ailleurs aussi le canton de Bâle en Suisse, pour prendre cet exemple, commence à faire une euro-région, et ils commencent vraiment à mettre en œuvre cette euro-région sur des tas de plans, transport, université, il y a des tas de choses comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une avancée européenne. Que des régions limitrophes, qui en plus, là, ont une histoire commune, parce que finalement, les frontières sont, les frontières nationales ne sont pas si anciennes, hein, quand on remonte au Moyen-Âge, que ces régions-là font des choses ensemble pour le bien des gens qui habitent là, c'est très bien. Et la même chose, on voit la même chose du côté d'Aix-la-Chapelle avec les régions belges et hollandaises qui sont limitrophes. Et les Allemands essaient aussi de faire la même chose avec les Polonais et les Tchèques maintenant. Et je pense que ça, ce sont vraiment des avancées européennes concrètes qui peuvent vraiment faire avancer les choses. Et moi, je pense que, par exemple, les Français pourraient tout à fait faire la même chose, par exemple, au Pays Basque, où ça se fait. Oui, bon, ça se fait. Avec la Suisse, l'Italie.
Dans ce cadre-là, la Grande-Bretagne, en fait, souffre d'un déficit de frontières. Qu'elle est vraiment, quand elle utilise le terme relativement méprisant, globant, de continent ou de continentaux, ces Européens continentaux, pour bien montrer la distance qui les sépare et le fait qu'eux, ils sont uniques. Là, ça se retourne, mais vraiment complètement contre les Anglais. Et ça, on le voit très très bien, ce genre de problématique. Ils sont loin de cette Europe continentale. Ils ont leur Commonwealth défunt ou en train de mourir ou moins puissant qu'avant. Ils ont ce problème avec les États-Unis et l'Irlande et la France. Ils ont eux-mêmes leurs propres problèmes régionaux, parce que c'est un pays qui, un royaume dit uni, qui est quand même en guerre civile dans le nord, que ce soit l'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, etc. C'est une espèce de fédération de pays. Ils ont eux-mêmes leur propre pays. Ils en souffrent certainement du point de vue économique et du point de vue de l'avancée européenne, effectivement, mais ils n'en ont pas conscience. Le problème n'est pas là, ça n'est pas. On ne peut pas réinventer la géographie, c'est la seule chose qu'on ne puisse pas changer.
Quand on compare sur le plan des frontières, vraiment la Grande-Bretagne et l'Allemagne, c'est vraiment les deux extrêmes. Parce qu'il n'y a aucun pays en Europe, sauf peut-être la Russie, qui a autant de voisins que l'Allemagne. C'est vraiment une nation, c'est un pays continental européen par excellence. Et bon, les Allemands sont obligés, ils ont envie de vivre en bonne intelligence avec tous leurs voisins, y compris les voisins de l'Est, c'est-à-dire les Tchèques, les Hongrois et les Polonais.
Oui, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment une avancée européenne, si c'est l'Europe qui a permis ça ou si c'est simplement la logique géographique qui veut que les gens se rapprochent et coopèrent ensemble et que des proximités linguistiques permettent ça. Parce qu'on voit le même phénomène d'Europol ou Euro-région avec la Suisse romande, une partie de la France. Les Suisses romands sont beaucoup plus proches et sont beaucoup plus attentifs à ce qui se passe dans le Jura ou en France. D'autant plus que le divorce avec les alémaniques se creuse, le divorce linguistique, stratégique, ils ne sont pas d'accord sur énormément de choses et de moins en moins d'accord sur un certain nombre de choses. Je pense que c'est surtout une donnée géographique, peut-être que l'Europe rend possible, parce qu'il y a un cadre ou parce qu'il y a une motivation ou que du coup les locaux se sentent entre guillemets autorisés à collaborer plus dans le cadre européen, mais en fait c'est une dynamique proprement géographique et locale. Je ne sais pas si on peut l'imputer à l'Europe.
Oui, mais il faut quand même rappeler que les régions n'ont pas le même poids dans tous les pays européens. Les régions, les Länder en Allemagne ont un poids très important. Il y a des pouvoirs entiers qui relèvent de l'État central en France, qui relèvent des Länder, par exemple la police, l'éducation, ça relève des Länder, les universités. Donc ce sont vraiment des entités importantes politiquement qui ont du poids. En revanche, les régions françaises, c'est pas le cas. Et d'ailleurs, on le voit très bien, justement, quand l'Alsace se retrouve autour de la même table avec le Baden-Württemberg pour discuter des problèmes locaux sur place. Très souvent, l'Alsace ne peut pas dire, voilà, on est d'accord pour ceci, cela, parce qu'il faut demander à Paris. Et ça, c'est un problème en Europe parce que les régions, il y a d'autres nations européennes, l'Espagne maintenant, où le régionalisme est très 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 développé. La Catalogne, le Pays basque espagnol sont des régions qui ont une très très forte autonomie, plus forte encore d'ailleurs que les Länder allemands, je crois. Et on a des nations comme la France où les régions, bon, elles existent, mais elles n'ont pas beaucoup de pouvoir.
Bon, on en vient justement au fait que l'Europe serait presque un frein au développement régional, puisqu'elle n'a pas été pour l'instant capable d'insuffler suffisamment de force, de volonté aux États nationaux pour qu'ils donnent plus de pouvoir aux régions, pour que cette dynamique régionale européenne fonctionne.
Le véritable frein est quand même, reste quand même l'État national.
Il n'y a pas que les hommes politiques qui ont pensé à l'Europe. Julien Schramm nous donne l'exemple d'une Europe qui ne doit rien à la politique.
Mais c'est le tournoi des cinq nations est quelque chose de progressif, hein, qui s'est fait petit à petit. Hein. Ça n'a pas été une compétition qui a été organisée du jour au lendemain. Quoi. C'est-à-dire, il y a eu d'abord l'Écosse et l'Angleterre qui ont fait un match international, donc, et ensuite les autres nations petit à petit sont venues se greffer. Et bon, pour arriver au tournoi des cinq nations. Au départ, c'est un sport d'Eric Socrate. Ouais. C'est parce que c'est un sport qui a été conçu dans les écoles, dans les collèges anglais, qui a été inventé Le point de départ, c'est 1823 dans le collège qui s'appelle Rugby, donc du nom de Rugby, et donc c'est un collège, comme il y en a beaucoup en Angleterre. Et donc ça a été un sport qui a été créé par les enfants d'aristocrates, quoi, hein, finalement, et qui a été et que les aristocrates ont continué à jouer, quoi. Après, il faut voir aussi l'évolution du sport en Angleterre. Il y a soit le sport amateur pur et dur des aristos, et soit le sport pro de la classe ouvrière, quoi. Il y a le foot et il y a le rugby. Il y a le foot et le rugby à 13, et puis il y a le rugby à 15, et le cricket, par exemple.
Alors, les supporters de rugby, comment se comportent-ils quand ils voyagent à travers l'Europe ?
C'est presque du tourisme, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de... Comment te dire ? C'est une sorte de voyage sans... C'est pas vraiment, on va pas supporter et foutre sur la gueule sur les... On vit par l'intermédiaire d'une équipe, quoi. Le rugby, c'est... La symbolique dans le rugby, elle est très forte. Je veux dire, elle est très forte, la symbolique. On va pas directement s'affronter, comme font les supporters parfois dans les matchs de foot. On va vivre à travers une équipe. On va vivre ce simulacre de combat à travers une équipe. C'est pour ça, on peut parler des symboles, des écussons que les équipes de rugby portent toujours et qui n'existent pas dans les autres sports. L'équipe d'Écosse ou l'équipe de football d'Angleterre n'ont pas les écussons, n'ont pas la rose que portent les rugbymen anglais sur leur maillot, n'ont pas le chardon que les joueurs écossais ont sur leur maillot, quoi.
Parlons de ces symboles. Il y a donc cinq symboles, puisque cinq équipes et cinq nations. Que représentent-ils ?
Ben c'est clair. En fait, ces symboles, il faut aller les chercher loin en arrière dans l'histoire, quoi. En fait, c'est le match de rugby, c'est un combat, quoi. Et on y retrouve toute la symbolique des anciennes batailles qu'il y a eu en Grande-Bretagne ou en France. Par exemple, la rose rouge, c'est le symbole de la guerre des deux roses. Et c'est la rougeuse qui a vaincu. C'est les York contre les Lancashire. Et c'est les Lancashire vaincus et qui ont imposé la rose rouge à l'Angleterre. Donc, c'est un symbole d'une bataille. Le poireau gallois, c'est le symbole des archers gallois qui, lors de la bataille de Crécy contre les Français, avait tué toute la lourde cavalerie française grâce à leur habileté, et c'était dans un champ de poireaux, et ils avaient cueilli les poireaux comme symbole de la puissance des archers gallois. Le chardon écossais, ça vient d'une bataille aussi qui remonte au 12e. Tout ça, c'est le Moyen Âge, hein, ça remonte à loin. Le chardon écossais, on sait que les Highlands sont pleins, les Highlands écossaises sont pleins de chardon, et lors d'une de ces nombreuses batailles entre Anglais et Écossais, parce que les Anglais ont envahi l'Écosse, les Anglais avaient décidé de mener une bataille de nuit contre les soldats écossais, contre l'armée écossaise, enfin ce qui était à l'époque l'armée écossaise. La légende dit que les soldats anglais s'étaient mis pieds nus pour pas faire de bruit, mais qu'ils avaient traversé un champ de chardon et qu'ils avaient, pieds nus sur un champ de chardon, ils avaient fait du bruit, que ça avait réveillé les Écossais, et les Écossais, grâce à ça, avaient remporté la bataille, parce qu'ils ne s'étaient pas fait surprendre. Et le chardon est devenu le symbole, et je crois qu'au XVIe siècle est né l'ordre du chardon en Écosse. Et c'est toujours très tenace, et je dirais même à la limite que c'est encore plus tenace, parce que depuis 2-3 ans, les Écossais ont leur propre hymne national, qui s'appelle Flower of Scotland, et bon, la fleur de l'Écosse, bon, c'est le chardon, quoi. Par contre, ça, en Irlande, ça a une autre signification, c'est l'Irlande est très, très catholique, et le trèfle, c'est le, les trois feuilles du trèfle, c'est, ça représente les trois éléments de la religion catholique, c'est le Fils, le Père et le Saint-Esprit. Et c'est Saint Patrick, qui est le saint patron des Irlandais, qui avait trouvé ce symbole, ça remonte au 5e siècle, je crois. La légende dit qu'il a chassé tous les serpents d'Irlande grâce à ce trèfle, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de serpent en Irlande, quoi, aujourd'hui. Donc c'est vraiment, tout ce symbole remonte à très loin en arrière, quoi, et souvent représente des combats gagnés, des heures glorieuses des nations. Et enfin, il faut trouver dans le rugby toute cette symbolique, quoi, du simulacre du combat, des batailles antiques, quoi, finalement. Et le coq gaulois, c'est les ailes du coq qu'il y avait sur les casques des Gaulois, quoi, hein, finalement. C'est... Par contre, ça, on retrouve le coq sur les maillots de toutes les équipes de France, quelle que soit l'activité, quoi. Mais on est très, je crois que les Français sont plus sensibles à ça, quoi, à l'identité, quoi. C'est un peu plus chauvin, quoi.
Sof a cargo de Raí. Ahí está jugando Ternarsky el marcador de Romario en su primera aproximación y ahora Romario tiene espacios porque está fuera su marcador. Romario combina con Raí. Aceptó en el taconazo Raí. Vamos a ver quién se lleva esa pelota. Simbalar para Rusia. Rachenko. Nikiforo. Apertura para Gorbukovic, el jugador de Bayern.
Donc, a la page 9 de votre livre, vous dites la chose suivante. 12 pays, 9 langues officielles, une trentaine de langues régionales, près de 200 langues de migrants, 8000 réunions par an, 380 fonctionnaires interprètes, 2 à 300 freelances engagés à la journée, 1200 traducteurs pour la commission, 3 à 400 traducteurs pour le comité économique et social. Certes, mais y a-t-il une politique linguistique de l'Europe pour autant ?
Non, pour l'instant, je parle de l'Europe des 12, hein, celle qui existe aujourd'hui, c'est-à-dire de la CE. Pour l'instant, la seule politique linguistique, c'est la reconnaissance de 9 langues officielles, hein, langues de travail, qui sont en gros les langues officielles des pays membres, sauf 2, puisque l'Irlande a renoncé à au gaélique, accepte l'anglais, et le Luxembourg a renoncé au luxembourgeois. Mais ils ont 3 langues, allemand, français et luxembourgeois. Donc 9 langues, avec un principe qui n'est pas respecté, que tout est traduit immédiatement dans ces 9 langues. Pas respecté parce qu'en fait, on traduit tout en anglais, en français, très vite. Et puis le reste, ça vient quelques semaines plus tard, aux grandes dames des Allemands d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps, tout bêtement. Hein, bon. Donc ça, c'est la pratique linguistique. Maintenant, une politique linguistique, le problème, c'est que dans chacun des pays, quand on parle de politique linguistique européenne, on a l'impression que c'est toujours le problème national qui est mis en avant. C'est-à-dire que c'est pas du tout une politique linguistique pour l'Europe, c'est une politique linguistique qui tend à défendre la langue nationale dans l'Europe. Ce qui se passe en France depuis quelques semaines était tout à fait exemplaire, enfin la loi Toubon, dans la mesure où on nous présente cette loi comme une loi à usage intérieur, marché intérieur. Hein. Défendons le français en France, avec une hypocrisie. Enfin, dans le texte de la loi, le mot anglais n'apparaît nulle part. On parle toujours de mots étrangers. Et toute la presse, tous les médias ont bien compris et traduisent le mot anglais. Bon. Mais en fait, ça n'est pas tellement le marché intérieur qui est visé, c'est le marché extérieur. C'est-à-dire que le problème que rencontrent beaucoup de nos ayatollahs de la francophonie, c'est qu'ils craignent pour la situation du français comme langue étrangère ou comme langue internationale. Bon. Alors là-dessus, il y a un problème, parce que les Espagnols réagissent de la même façon, en se disant « bon, d'accord, nous ne sommes que quelques dizaines de millions en Europe, et notre langue, vue de l'Europe, est une petite langue, ou les Portugais encore plus. Le nombre de Portugais en Europe, c'est rien. Le nombre de locuteurs des Portugais, c'est rien. » Mais dans le monde, on parle beaucoup plus portugais ou espagnol que français. Alors, on a l'impression que l'Europe linguistique, si vous voulez, officielle, devient une sorte de champ clos dans lequel, en fait, ce sont des positions extérieures des langues, le français dans le monde, l'anglais dans le monde, qui justifient leur position de force et leur rapport de force en Europe. Et là, on ne peut pas en sortir tant qu'on n'a pas une politique nationale qui soit axée sur une politique européenne. Il y a une chose qui me paraît tout à fait caractéristique, là, c'est l'école. Selon les pays, donc dans les 12 pays de l'Europe, selon les pays, les enfants, disons jusqu'à l'âge de la scolarité obligatoire, jusqu'à 16 ans, apprennent entre une et trois langues à l'école. Bon, la France, on apprend deux langues, normalement. Les Italiens ou les Espagnols apprennent une seule langue, les Anglais aussi, une seule langue. Par contre, au Danemark ou en Hollande, on apprend trois. Si on arrivait à mettre au point une politique commune scolaire européenne, un minimum de deux langues, enfin, ça me paraît tout à fait possible, peut-être qu'il y aurait une moindre crainte par rapport aux impérialismes linguistiques qui risquent de manifester, hein, que risquent de manifester l'anglais ou le français. Hein. Peut-être que les Allemands seraient moins grincheux, parce que les Allemands, c'est les grands perdants dans l'Europe. Vous savez que quelle est la langue la plus parlée en Europe? La langue première, c'est l'allemand. Et c'était, en Europe des 12, c'était l'allemand avant la réunification. C'est donc avec la RFA uniquement. C'est l'allemand sans compter l'Autriche, qui n'est pas dans l'Europe, sans compter la Suisse allemande. Donc l'allemand est de loin, aujourd'hui, en Europe des 12, la langue première la plus parlée. Mais ça n'est pas une langue internationale. L'Allemagne a eu une histoire coloniale assez limitée, assez brève. Elle a pris fin en 1918, hein, après la défaite. Et donc, elle n'a pas gagné des marchés linguistiques étrangers, extérieurs. Et c'est de tout ça que l'Europe est le reflet. Alors, il faudrait qu'on arrive à avoir dans chacun des pays de l'Europe une politique linguistique, par exemple scolaire, mais pas seulement, qui soit tournée vers l'Europe et pas vers la défense des intérêts nationaux, des intérêts de la langue en question. On dit que l'allemand est une langue lourde, difficile, que c'est bourré de guttural. On dit que les Italiens parlent avec les mains. Et tout ça, c'est déjà bon sur l'image de la langue. Et puis ça continue avec les appellations. Alors bon, j'en ai dans un bouquin sur l'Europe et ses langues, j'en ai fait une liste, pas exhaustive, mais enfin une liste assez longue. Mais comment on appelle le voisin? Bon, ils sont britanniques ou anglais, ils sont allemands, ils sont italiens, mais on les appelle assez facilement quand même des Rital ou des macaronis pour ce qui concerne l'Italie, des Bosch ou des Schleux pour ce qui concerne l'Allemagne, des roast beef pour ce qui concerne les Anglais, et vice versa, hein, les Allemands, les Anglais nous appellent des frogs, enfin des grenouilles ou des mangeurs de grenouilles. Bon, donc dans tout ça, c'est assez drôle parce que au moment où on trouve un peu sur toutes les tables des restaurants d'Europe à la fois de la moutarde et du ketchup, où là il semblerait qu'une unité factice dégage, quand on voit la façon dont les gens s'appellent mutuellement, se considèrent mutuellement, ou s'imaginent ou s'inventent mutuellement, on se dit que l'Europe n'est pas prête de se faire. Et pour, laissez-moi, disait Galilée, et pourtant ça tourne, elle est en train de se faire. Je voudrais revenir sur cette histoire des langues de l'Europe, parce que tout à l'heure j'ai parlé des 9 langues officielles de l'Europe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas que 9 langues en Europe. Et qu'en focalisant sur les langues officielles, on oublie beaucoup de choses. On oublie d'une part des langues régionales qui existent. Certaines sont un peu mythiques, c'est-à-dire que le breton ou le basque, des deux côtés de la frontière d'ailleurs, sont hélas des langues qui vont disparaître, je le crois ou je le crains. D'autres sont réellement parlés, enfin le catalan en Espagne, donc il y a comme ça un certain nombre de langues locales, le gallois au Pays de Galles, en Grande-Bretagne, mais il y a aussi des langues de migrants. Et les langues de migrants ne sont pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, des langues minoritaires. En Allemagne, la deuxième langue, c'est le turc. En France, c'est l'arabe. La troisième, c'est l'alsacien, hein, après là, bon, les chiffres, voilà. Bon, ce sont des chiffres un peu bas, ces gens qui parlent turc en Allemagne et qui sont intégrés à l'Allemagne, qui travaillent en Allemagne, dont les enfants sont allemands, qui payent leurs impôts en Allemagne, il faut bien les prendre en compte aussi. Alors, on ne s'est pas, en Europe, battu pour des langues. Si, ça s'est passé en Grèce au début du siècle. On avait traduit les évangiles dans la langue populaire, dans la démotiki, alors que la langue officielle était la kafare ou ça. Et là, il y a eu des émeutes sanglantes, des émeutes linguistiques, qu'on appelle d'ailleurs les émeutes évangéliques en grec. Mais c'est rare, ça. Bon, on s'est pas battu pour des langues. Et les langues, au fond, c'est un peu le sommet de l'iceberg, vous voyez. Quand on dit l'allemand, c'est pas beau, hein, c'est une langue moche. On parle pas de la langue, on parle du peuple allemand.
Vous écrivez, donc, page 14 de l'Europe et ses langues, un excellent ouvrage, je me permets de le préciser au passage. Déjà, Charles Quint, à ce qu'il paraît, avait coutume de dire que s'il avait voulu parler aux hommes, il parlerait français, s'il voulait parler à son cheval, il parlerait allemand, et s'il voulait parler à Dieu, il parlerait espagnol. Alors, ne serions-nous pas là où les stéréotypes linguistiques et nationalistes se confondent?
Absolument, parce qu'en fait, Je ne pense pas que les chevaux comprennent mieux l'allemand qu'une autre langue, ni que Dieu, que je n'ai pas encore rencontré, comprenne mieux l'espagnol qu'autre chose, hein, ni que les hommes. Évidemment, dans ce genre de phrases, bon, c'est des formules, bon, mais il y a des proverbes qui couraient comme ça, hein, pour parler aux femmes, on parle italien, pour parler... bon. C'est vrai, qu'il faut remarquer, hein, que l'allemand est toujours mal loti, alors que Charles Quint était à cheval sur les deux empires. Hein, bah, hein, bon. Derrière tout ça, il y a les stéréotypes, et derrière les stéréotypes, il y a toujours le racisme. C'est bien évident. Dire l'allemand est une langue pour parler aux bestiaux, enfin, à mon cheval, disait Charles Quint. Le français, c'est la langue des hommes, et Dieu va entendre mes prières en espagnol, c'est se faire une idée des gens qui sont derrière, et c'est affirmer des choses. Enfin, d'abord, c'est un sans-lieu de la science, ça n'a aucun sens, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il y a ça dans la tête des gens. Les gens qui vous disent, l'arabe, c'est pas joli. Parce qu'il y a les gutturales, hein. Les Chinois parlent du nez. Tout ça, ça ne repose sur rien parce que les gens n'ont aucune information. Ou alors, ces langues-là sont difficiles. Ou ces langues-là sont belles. Hein. Le français, c'est joli. L'allemand, c'est moche. Tout ça, c'est du pipeau, bien entendu. Mais à cause de qui ? À cause de nous, les professeurs, les éducateurs, à cause de l'État, finalement. Il faut que les gens apprennent l'histoire aussi de leurs voisins. Faire l'Europe, c'est également ça.
On the back foot, and they'll do well to turn this match round. At half time in the Stanford Stadium in Palo Alto, just outside San Francisco, in the 1994 World Cup, it's Brazil 1, Russia 0.
L'Europe a longtemps cherché à se définir par sa volonté de dominer le monde, et cette volonté s'est exprimée de plusieurs façons au cours des siècles. Si de nos jours les visées hégémoniques de l'Europe se sont fortement atténuées, il en subsiste encore quelques traces. Alain Simon, consultant en internationalisation.
Si on veut bien utiliser comme matériau de départ les planisphères, qui demeurent quand même de fabuleux réceptacles d'opinions que les Européens ont sur eux-mêmes, il est particulièrement instructif de regarder les planisphères du reste du monde. Avec notre vision du monde habituelle, on aurait tendance à demander à des Américains ce qu'ils pensent des perspectives de paix au Proche-Orient. Or, l'expression de Proche-Orient est très eurocentrée, parce que pour des Américains, ça ne veut rien dire, le Proche-Orient. Il y a un indicateur qui est encore plus pertinent, me semble-t-il, c'est quand on découvre que la guerre du Golfe a été conduite par un état-major américain qui avait en charge l'Asie du Sud-Ouest. C'est-à-dire que, au travers de la vision du monde que nous avons sur nos planisphères, il y a toute une série de contagions ou de pollutions dans les expressions qui sont les nôtres, dans le vocabulaire qu'on utilise, qui témoignent de l'eurocentrisme. Bon, voilà un deuxième exemple. Il y a un troisième exemple que beaucoup de gens doivent connaître, c'est quand on regarde un planisphère qui est centré sur le pôle. Admettons que ce soit un planisphère tel que des Esquimaux auraient pu le dessiner. En le regardant, on se rend bien compte que nous, les Européens, nous avons eu une idée très très fausse de ce qu'on a appelé la guerre froide. On a cru que c'était un conflit Est-Ouest. Et, ben, en fait, quand on voit clairement où étaient installées les rampes de lancement des missiles, on se rend compte que c'était un conflit Nord-Nord. Parce que les rampes de lancement n'étaient absolument pas orientées de manière à ce que les missiles se dirigent qui vers Moscou, qui vers Washington, en passant par-dessus l'Europe, comme nous l'avons cru. Mais ils étaient orientés exclusivement direction l'adversaire, en passant par le pôle. Et les Européens qui ont vécu pendant 40 ans, persuadés que si ça devait tourner mal, ils auraient été aux premières loges, n'auraient en réalité rien vu. Les missiles n'étaient pas tournés dans le sens de la perception que les Européens croyaient avoir de la guerre froide à partir des cartes qu'ils avaient dans la tête. Donc là aussi, c'est une vision très eurocentrée que ce conflit Est-Ouest. En fait, il s'est agi d'un conflit aller. On peut faire une concession Nord-Ouest-Nord-Est. Ouais. Les conséquences sur un plan économique, c'est tout à fait fondamental. Parce que lorsqu'on se croit au centre du monde, on a tendance à en déduire des comportements à base de rayonnement, qui partent à partir du centre et qui vont vers ce qu'on croit être la périphérie. Or, économiquement, et beaucoup plus encore qu'économiquement, culturellement, l'Europe a toujours eu vocation à rayonner. Rayonner sur un plan culturel, bah, c'était évangéliser les infidèles. Et puis rayonner sur un plan économique, bah, c'était par exemple exporter. Et l'une des difficultés peut-être économiques à laquelle l'Europe est confrontée en ce moment, c'est qu'elle a un mal fou à accepter qu'elle ne soit plus au centre et qu'elle ne puisse donc plus mettre en œuvre des démarches économiques à base de rayonnement. Et si on prend par exemple le débat qui s'est développé en France depuis un petit peu plus d'un an autour de la notion de délocalisation, il suscite beaucoup d'angoisse parce que ça veut effectivement dire que l'Europe doit désormais essaimer et qu'elle ne peut plus produire à partir de chez elle et vendre ailleurs, mais qu'elle doit désormais accepter de produire ailleurs. C'est-à-dire qu'elle doit sortir de sa vision eurocentrée. Donc les conséquences sur un plan économique, elles sont complètement fondamentales.
Essaimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste implanter une usine à l'autre bout du monde et puis par un jeu d'écriture essayer d'en rapatrier quelques bénéfices? Ou est-ce que ça implique une plus grande ouverture vers le monde ou vers l'espace géographique dans lequel on va implanter la dite usine?
Cette vieille tradition de rayonnement est désormais arrangée dans le magasin des accessoires révolus. Donc rupture, il y a eu. On ne peut plus espérer rayonner comme avant. Être présent ailleurs, c'est pas simplement tirer parti des différentiels de coûts de main-d'œuvre et puis jongler avec des jeux d'écriture. C'est effectivement accepter d'une certaine façon de rentrer dans l'identité des autres. Ça va être accepter de rentrer dans la culture des autres. Ça veut dire aussi accepter peut-être de produire un développement ailleurs. Ça veut dire ne plus se croire l'unique moteur du monde. Ça va probablement poser des problèmes d'adaptation dans les modes de fonctionnement des Européens. Parce que si les Européens, par exemple, en tout cas les Français, ont une difficulté à maîtriser des langues étrangères, là en l'occurrence, le défi qui leur est lancé, c'est qu'il va falloir qu'ils maîtrisent des cultures étrangères, qu'ils acceptent non pas simplement de baragouiner anglais, de traduire en anglais ce qu'ils faisaient d'habitude en France, mais qu'ils acceptent de se loger dans une culture différente, de travailler dans des équipes pluriculturelles. C'est complètement différent. La remise en cause de l'Europe au centre du monde et par voie de conséquence des stratégies à base de rayonnement va impliquer pour l'Europe une révolution culturelle.
Alors de quel type ?
Du même type que cette douloureuse rupture que peuvent vivre les enfants quand ils découvrent qu'ils sont plus au centre de l'univers. Du même type peut-être aussi que cette très difficile rupture que le Vatican a mis tant d'années à accepter quand il a découvert que d'admettre que le monde n'était plus au centre de l'univers. C'est déjà une espèce d'acceptation de l'humilité.
Mais alors pour un Européen, ce qui est dur, c'est que se couler dans une autre culture, c'est quelque part renoncer à la sienne ou accepter que la sienne ne soit plus la culture suprême à laquelle les autres doivent s'adapter.
Pour un Européen, ça va peut-être vouloir dire accepter qu'il n'y ait pas une seule vérité, la sienne, une seule identité, la sienne, mais qu'on soit partagé entre plusieurs identités. Ça peut simplement vouloir dire accepter l'idée du métissage. Pour essayer d'être plus clair, je crois que les Nord-Américains, par exemple, n'ont pas de difficulté à utiliser le trait d'union pour désigner les deux identités dans lesquelles ils revendiquent leur appartenance. On se définit négro-américain, italo-américain. Ça ne pose pas de problème d'être à cheval sur deux cultures aux États-Unis. On peut être et l'un et l'autre. Les Européens semblent avoir plus de difficultés. C'est comme si ils se sentaient devant une alternative dont l'un des termes exclurait l'autre. Ils devraient être soit français, soit autre chose. Or, le défi qui est lancé en ce moment à l'Europe, devant ce monde plein de polycentriques, si je puis dire, c'est qu'il va falloir que des Européens acceptent d'être eux-mêmes tout en étant ailleurs. Au minimum, il faudra accepter d'avoir deux identités. L'identité originelle, franco, germano, ibéro, plus l'appartenance à l'Europe. Mais ce trait d'union n'est pas seulement entre deux termes, il peut y en avoir trois. On peut parfaitement être franco-européo-américain. C'est pas impossible. Mais je suis à peu près persuadé d'ailleurs que différents Européens, quand ils se retrouvent dans un hôtel de Calcutta, ressentent beaucoup plus leur appartenance commune à l'Europe que leurs différences, qu'ils auraient tendance à flatter quand ils se retrouvent dans une salle d'embarquement à Roissy ou à Francfort. Alors, je voudrais quand même dire autre chose, c'est que ce qui est spectaculaire au niveau des planisphères se retrouve dans une exacte transposition au niveau de la perception que les Européens ont de l'histoire, de leur histoire. On pourrait faire un parallèle. Prenons un exemple d'une rupture historique que les Européens ont vécue avec eurocentrisme. La quasi-totalité des Européens aurait tendance à dater la fin de la guerre froide de la chute du mur de Berlin, novembre 89. Or, pour peu qu'on veuille bien regarder les événements tels qu'ils se sont produits, la guerre froide s'est achevée en 1985. Lorsque, par exemple, Gorbatchev, arrivant au pouvoir, négocie la reddition de l'Union soviétique. Cette reddition a pris plusieurs années. Ce n'était pas gagné qu'elle se passe dans la douceur relative. Quelques années plus tard, on a vu une manifestation de la reddition de la coalition soviétique, une manifestation spectaculaire en Europe. Ça a été la chute du mur de Berlin, et puis donc l'abandon du deuxième cercle de l'Empire par l'Union soviétique. Mais voilà encore un exemple où les Européens ont une vision complètement eurocentrée de l'histoire, parce qu'ils n'ont pris conscience de la fin de la guerre froide que lorsque ça a été visible en Europe. Comme si, quand un événement se produisait ailleurs, il ne comptait pas. S'il est vrai que l'Europe a été à une époque au centre du monde, il faut qu'elle accepte de voir qu'aujourd'hui, il n'en est plus rien.
Sont claros. Nos enfrentamos a un problema de fatiga mental, de stress. La historia de nuestro protagonista es la de un estudiante de medicina que inicia su carrera tras haber superado, con una elevada puntuación y muchas horas de estudio, las pruebas de selectividad.
C'était les Européens vus par les Européens, avec Jana Novoček, archiviste de la ville de Prague, Carbine, photographe, Paolo Fabri, directeur de l'Institut culturel italien, Claire Mellini et Marco Schütz, du service Europe de l'hebdomadaire Courrier International, Alain Simon, fondateur du cabinet Phileas et consultant en internationalisation, Louis-Jean Calvet, professeur de sociolinguistique à la Sorbonne, Cornelis van Beverlo, dit Corneille, artiste peintre, Julien Schramm, journaliste sportif. Jean-Louis Boissonnade, Annick Brien, Jean Couturier, Simon Guibert, Nuit Magnétique, bonsoir.
Germaine, belle Germaine, s'en alla promener. Au souche Méraco, trois jeunes officiers, qui lui ont demandé, êtes-vous à marier?
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 21 juillet 1994.